Bonjour et bienvenue dans le balado Précipitation. À l'été 2023, le Centre d'expertise sur le bien-être et l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile, le CERDA, est allé à la rencontre d'hommes et de femmes d'Afrique, d'Asie du Sud et d'Amérique centrale qui sont venus trouver refuge au Québec. Nous les avons rencontrés virtuellement ou en personne et leur donnons la parole dans ce balado. Ensemble, leurs témoignages nous éclairent sur les impacts que le climat et l'environnement peuvent avoir sur leur vie quotidienne ainsi que sur leurs déplacements. Bon voyage au cœur d'un phénomène complexe. Dans le dernier épisode, nous avons abordé les impacts des changements climatiques et environnementaux qui entravent certains besoins essentiels de certains groupes de personnes et limitent par le fait même leur capacité à jouir de certains droits. À travers les témoignages, des personnes nous ont parlé des contraintes liées au climat qu'elles ont observées ou vécues. D'autres ont également souligné comment elles parviennent à naviguer à travers ces défis. Cet épisode vise à approfondir notre compréhension de la manière dont les personnes s'adaptent à leur environnement. Bien que les témoignages que vous vous apprêtez à entendre démontrent la forte capacité d'adaptation des personnes, cet épisode ne se veut pas qu'un éloge de cette résilience. Cet épisode vise plutôt à démontrer comment la vulnérabilité et les facteurs de risque, tels qu'explorés dans l'épisode précédent, peuvent cohabiter avec la résilience et les facteurs de protection. La migration est un acte de résilience et de courage en soi. Habiter et s'adapter à son environnement, en dépit des intempéries, l'est tout autant. Certes, plutôt que de miser sur l'adaptation comme une solution que les personnes doivent individuellement mettre en action, nous espérons pouvoir mettre en lumière comment les personnes sont forcées de s'adapter en raison d'actions et d'inactions collectives. Tout en admirant la capacité et la force des personnes, nous croyons néanmoins que la responsabilité de s'adapter ne devrait pas reposer sur les individus. Et nous espérons que les prochains témoignages pourront tout autant démontrer l'importance d'aborder les causes profondes des changements climatiques et environnementaux. À travers les difficultés exprimées dans l'épisode précédent, quelles stratégies les personnes mettent-elles en place afin de continuer à habiter leur environnement ? En dépit des difficultés liées à l'accès à la nourriture, Ernestine explique comment les personnes en RDC adaptent leurs pratiques au gré des saisons.
Il y avait de la nourriture pour la saison sèche. On sait qu'à la saison sèche, on aura ça. Et on pourra tout organiser pendant cette période-là. Et on savait que non, pendant la période de pluie, on sait aussi s'organiser. Par conséquent, il y avait beaucoup d'inondations et on pouvait s'organiser aussi dans ce sens-là. Et au moins, on avait quand même une période où on s'apaisait, une période où on pouvait organiser des fêtes, une période où on se disait quand même au moins, on n'était pas très mouvementé avec les caprices naturels, comme on appelait ça, des caprices naturels, oui.
Quant à elle, Margarita explique comment elle faisait pousser ses propres fruits au Nicaragua.
Là-bas, par exemple, nous avons planté un petit plant de citron et ce citron nous a permis à ne plus avoir à acheter de citron. Donc on faisait pousser des citrons, des bananes, mais c'était pour la maison, pas pour vendre.
Margarita explique aussi avoir planté des arbres pour contrer la chaleur.
Dans ma maison, là où nous vivions, c'était comme une ferme où les parents de mon mari vivaient. Avant, il n'y avait pas beaucoup d'arbres et quand ils sont arrivés, j'ai vu des photos, c'était comme un désert, mais ils ont commencé à planter des arbres, beaucoup d'arbres, et tout le monde autour a commencé à planter, et c'était le seul endroit plus frais là-bas.
Il s'agit également d'une stratégie adoptée par Amadou au Sénégal.
On a implanté beaucoup d'arbres aussi là-bas pour qu'il y ait un peu d'air. Comme je vous l'ai dit, là-bas c'est trop chaud, il faisait trop chaud, maintenant c'est mieux, c'est pas trop de chaleur là-bas.
Certaines personnes nous ont aussi éclairés sur les manières dont elles s'adaptent lorsque le climat impacte leur emploi, que ce soit de manière directe, comme l'explique Roland au Cameroun.
Bon, ça a une valeur. Bon, d'utiliser ça de manière stratégique. Bon, je peux dire que m'adapter en fonction de la période. Donc, c'est comme ça. Si on pouvait, c'est quand tu veux faire le commerce, il faut avoir un grand parasol et prévoir un grand plastique pour la marchandise. C'est au cas où la pluie vient avec les vents forts. Bon, c'était l'environnement, la saison pluvieuse, la saison sèche aussi. Il y a un moment de l'année qu'il fallait aussi ouvrir le parasol quand le soleil est intense pour que ça ne frappe pas forcément peut-être les biscuits ou les bonbons que tu as mis à côté. Oui, mais donc, c'est m'adapter en fonction de la période, si vous dites ça. Bon, ça avait une place vraiment stratégique.
Ou de manière indirecte, comme l'explique Bernadette, lorsqu'elle fait le lien entre la sécheresse en RDC, l'inflation et la nécessité d'occuper un deuxième emploi.
La zone des sécheresses, quand même, tout devenait cher. Et puis, pour les gens qui vivaient que de leur salaire, parce qu'au Congo, si tu ne fais pas quelque chose autre en dehors de ton travail, c'est vraiment difficile d'atteindre les deux bouts du mois. Donc, ou bien madame fait un petit commerce en plus de ce qu'elle fait comme travail. Yeah. Et c'est ce que moi aussi je faisais. En plus de mon travail à l'ISP comme agent en informatique, j'avais un salon de coiffure et mon mari avait une boucherie.
Elena, quant à elle, nous a raconté comment elle adaptait son logement en Colombie en raison de la chaleur.
Pour stratégie,
quand je vivais avec la mère de mon mari, eh bien, il faisait très chaud là-bas. On dormait avec la porte ouverte, on avait des ventilateurs, mais on a décidé d'en acheter un supplémentaire parce qu'il faisait vraiment chaud. Et j'ai décidé de déménager dans un endroit où il faisait un peu plus frais. Et on a trouvé une maison qui avait deux climatiseurs. Donc, quand les maisons ont des climatisateurs, évidemment, on a plus de ventilation. Quand on a emménagé, il ne faisait plus aussi chaud. Nous avions un ventilateur dans les salons, un ventilateur dans la chambre à coucher, un ventilateur dans la chambre d'enfant. Alors, il ne faisait pas cette chaleur épouvantable que l'on ne supporte pas. Mais pour nous rafraîchir le week-end, nous installions la piscine sur la terrasse pour que les enfants se rafraîchissent ou nous allions à la plage parce que j'avais l'air climatisé. En Colombie, les services publics sont très chers. Donc, nous avons décidé de ne plus l'allumer. Il fallait un ventilateur, sinon je vous laisse imaginer la chaleur.
Dans l'épisode précédent, plusieurs personnes ont souligné comment leurs déplacements étaient entravés par le climat et les changements dans leur environnement. Guadalupe raconte comment la circulation au Mexique est ajustée pour favoriser une réduction de la pollution. Une mesure prise par le gouvernement, mais qui demande aux personnes de s'adapter.
À cause de la pollution, des plans sont en cours. Il y a un programme aujourd'hui qui s'appelle « Ne te déplace pas ». Quand il y a beaucoup de fumée, ils suspendent la circulation des voitures. Ils font des projets pour réduire la pollution. Mais honnêtement, je ne sais pas comment ils s'en sortent actuellement, si la pollution a vraiment diminué ou pas. À cause de la pandémie, beaucoup de gens ne sont pas sortis, ce qui a permis de dépolluer un peu l'environnement. Mais lorsqu'ils ont recommencé à sortir, la consommation a recommencé à augmenter. Mais on peut dire que tout ce qui a conduit à la pollution a recommencé de nouveau. En fait, les nouveaux véhicules, comme ils ne polluent pas trop, ils peuvent circuler tous les jours. Mais pour certains modèles ou certaines voitures, ils doivent se restreindre pendant un ou deux jours. Ils ont également mis en place un repos le samedi et le dimanche, parce que le samedi était un jour de congé, et tous les véhicules pouvaient circuler. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Donc oui, il y a eu des mesures, mais pas si extrêmes, qui sont vraiment nécessaires pour le problème de la pollution. Parce que j'utilisais les transports en commun, il y avait des moments où c'était bien pour moi. Parce qu'il y avait moins de trafic, moins de voitures sur la route, et donc je pouvais arriver plus vite à certains endroits. Mais parfois, il y avait plus de trafic. Au Mexique, on appelle cela l'heure de pointe. C'est-à-dire le moment où tout le monde quitte le travail, où tout le monde prend la voiture. Ils ont également commencé à mettre en œuvre cette mesure, à augmenter le nombre de transports publics, à offrir plus d'options de transports publics. C'est une autre mesure qu'ils ont mis en place, en plus de certaines voitures électriques. Ils ont également décidé de ne pas augmenter autant les tarifs des transports publics et ce genre de choses. Aussi, il y a des subventions du gouvernement pour que le coût des transports publics n'augmente pas trop. Mais aussi, évidemment, donner plus d'options à la population pour qu'elle puisse se déplacer sans utiliser autant la voiture privée.
Les personnes interrogées nous ont aussi raconté comment elles devaient se préparer à certaines catastrophes, mais aussi répondre à leurs propres besoins à la suite de celles-ci. En parlant du Mexique et des tremblements de terre, Guadalupe raconte.
Écoute, ce jour-là, il y a eu des interruptions dans les transports. Je me souviens de ce jour-là, ils nous ont laissés rentrer chez nous parce qu'ils n'avaient pas d'autre option, parce que le bâtiment voisin était sur le point de s'effondrer. Ils ont donc mis en place davantage de mesures de sécurité, comme par exemple des simulations, des gens qui surveillaient pour aider les autres, pour leur donner l'itinéraire de sortie de secours, pour qu'ils soient plus conscients des évacuations. J'étais très jeune, mais oui, nous l'avons tous vécu. C'était une journée difficile. Je l'ai aussi vécu quand j'étais plus vieille, mais je le répète, ça a été le cas pour tout le monde. Maintenant, tu entends ces dates et tu te dis, voyons ce qui va se passer. À tout moment, les gens arrivent avec leurs papiers en main, avec des lampes, parce que c'est très difficile à cette époque de l'année.
D'autres ont aussi souligné les efforts mis en place par les gouvernements. Par exemple, Daniela discute d'un programme d'aide aux agriculteurs au Mexique.
D'après ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de programmes, comme une sorte d'aide économique aux agriculteurs, parce que mon pays, c'est un pays de campagne. Donc, c'est l'une de nos principales ressources, la campagne. Et nous devons y investir. Et d'après ce que j'ai compris, ils ont soutenu certaines communautés avec cela parce qu'il y a eu beaucoup de sécheresse ces derniers temps.
De même, Roland explique comment les gouvernements prennent action lors d'inondations au Cameroun.
Ils creusent souvent des ravins, tout. Pour que quand l'eau vient, ça absorbe la plus grande quantité là. De manière normale, l'eau ne déborde pas dans les quartiers, c'est un peu comme ça.
Plusieurs nous racontent également comment cette aide est souvent limitée, ce qui les oblige à prendre les mesures nécessaires pour s'adapter ou se préparer aux catastrophes et aux changements climatiques et environnementaux. Par exemple, Bernadette explique que les citoyens ne sont pas informés lorsqu'une catastrophe approche en RDC.
Au moins ici, on sait qu'on annonce la tsunami, on annonce qu'il y aura la tempête. Ici, on prend ses dispositions. On ne sort pas quand on a annoncé ça, mais c'est différent de chez nous. La météo ne nous disait rien. Ça nous surprend et c'est la catastrophe.
Cet épisode, ainsi que le précédent, démontre bien la complexité des enjeux liés aux changements climatiques et environnementaux. Nous avons exploré comment ces enjeux sont intimement liés aux actions et inactions humaines et dépassent largement les causes dites naturelles. Nous avons également exploré comment ces enjeux amplifient certains facteurs de risque, mais aussi comment les personnes touchées possèdent certains facteurs de protection leur permettant de développer des stratégies pour s'adapter. Cette nuance permet de démontrer comment la vulnérabilité et la résilience des personnes face à leur environnement et au climat peuvent cohabiter. Les personnes que nous avons rencontrées ont migré alors qu'elles vivaient dans ce contexte complexe où elles étaient soumises aux changements dans leur environnement, tout en s'y adaptant. Mais est-ce que le poids de ces facteurs climatiques et environnementaux est la raison de leur migration vers le Québec ?
Ah, ça c'est vraiment une question. Ça n'a rien à voir avec le climat, malheureusement. C'était pire que le climat. C'était plutôt politique, insécuritaire. Il n'y avait pas de lien. Il n'y avait pas de lien parce que c'était une situation autre que la situation du problème climatique. Mais cela dit, quand bien même moi, ça ne m'atteignait pas parce que j'étais dans une zone sécurisée, la zone d'Ibanda, ça ne veut pas dire que les amis, les connaissances, les membres de famille n'ont pas péri dans l'érosion. Non, il y en a eu beaucoup, surtout dans l'érosion que le crash de volcan.
Dans l'extrait que l'on vient d'entendre, Bernadette nous explique que sa migration n'est pas liée aux insécurités climatiques, bien qu'elle reconnaisse qu'il s'agit d'un enjeu pour certains de ses proches. L'explication de Bernadette est partagée par les autres personnes interrogées, à qui nous avons demandé à quel point, sur une échelle de 1 à 10, leur migration était liée au changement climatique. Margarita et Julio, tous deux en provenance du Nicaragua, attribuent peu ou pas du tout de poids aux changements climatiques et environnementaux dans leur choix de migrer.
Non,
zéro.
Et
un.
Je veux dire, ce n'est pas une partie de la raison.
Roland du Cameroun explique sa réponse.
Ce n'est pas toutes les raisons climatiques qui m'ont fait quitter le Cameroun, naturellement. Et vous voyez que je m'adaptais. Je n'avais pas un souci avec... C'est un peu comme ça, puisque si né là-bas, j'ai grandi là-bas. Ce ne sont pas les raisons climatiques qui m'ont fait quitter.
Plusieurs des personnes rencontrées ont toutefois attribué une note d'environ 3 sur 10. C'est le cas d'Elena, de la Colombie, et de Daniela, du Mexique.
Je peux lui attribuer un 3.
Eh bien, pas tellement climatique, mais je peux vous dire un degré de peut-être 3. C'est à cause des problèmes que j'ai dû quitter mon pays. C'était plus à cause de cette situation que le climat. Peut-être que j'aurais pu m'adapter, parce que c'est ce que font les êtres humains. On s'adapte à la nouveauté, au changement. C'est plutôt soit s'adapter, soit, dans mon cas, avec ma situation, c'est chercher un autre type de solution.
Amadou du Sénégal attribue une note similaire et explique.
On va dire 3. 4 ou quoi, parce que c'est pas trop ça qui me fait déplacer ma voix. Si j'ai pas dit 1, c'est parce que je sais que au Sénégal, j'ai beaucoup de difficultés pour respirer. C'est un problème chez moi. Je ne vais pas dire dès que je sors du Sénégal. Dès que je vais en Guinée, je vais dire cela. J'ai pris ce problème-là. Quoi. Donc, depuis longtemps, je savais que si j'avais une opportunité pour sortir de là-bas, j'allais le faire.
L'explication d'Ernestine, de la République démocratique du Congo, est tout aussi éloquente.
Ça, je donne 3 ou 5 parce que, premièrement, les causes qui ont poussé que je quitte mon pays, c'est l'insécurité, tout d'abord, l'insécurité physique, la persécution, si je peux dire ça comme ça, l'insécurité physique, c'est la persécution. Et je me dis, si au moins il y avait des endroits, des recoins de mon pays qui étaient mieux sur le plan environnemental, peut-être je pourrais aller me cacher là-bas. Il y a vraiment l'enjeu climatique, je peux dire ça comme c'est l'enjeu climatique et environnemental. Je me dis, il y a des fois, quand j'avais même, j'étais fatiguée de fuir, d'avoir mon fils au dos pour traverser, pour sortir le pays, j'avais même envie de rester là. Mais comment je vais rester ici? Comment? Parce que ce n'était pas vivable, là. Ce n'était pas vivable. Oui, ce n'était pas vivable. Il y a vraiment... Peut-être à la capitale, on peut se dire oui, mais dans le coin, recoin, là, de mon pays, là, l'enjeu climatique et environnemental, se passer dans des endroits où vous trouvez des animaux mourir comme ça, à leur triste sort, là. Ils meurent d'eux-mêmes, là. Ils meurent et il y a des endroits où... Vous ne pouvez même pas arriver là-bas à pied. Vous devez être peut-être transporté pour traverser. C'est pas vraiment vivable. C'est pas vraiment vivable. C'est comme si c'est un autre monde. Là, mais je me demande si le gouvernement sait qu'il y a des endroits pareils dans le pays. Là.
Le témoignage d'Ernestine démontre bien comment les enjeux principaux l'ayant obligé à migrer ne sont pas liés au changement climatique. Mais comment les facteurs environnementaux ont néanmoins représenté une barrière importante. D'autres personnes ont toutefois considéré que les changements climatiques et environnementaux avaient eu une place un peu plus significative dans leur choix de quitter. Guadeloupe du Mexique et Saad du Pakistan expliquent.
Non, eh bien comment dire, ce n'était pas vraiment influencé par le... Enfin oui, un peu, je pense qu'un 5, oui. Un peu à cause de ce que je vous ai dit à propos des séismes, je souffrais beaucoup de ce genre de problèmes et d'autres circonstances dans la ville. Oui, je pense que c'est important.
Je noterais 6 sur 10. Oui, l'environnement est également une des raisons de ma migration, car la température augmentait et je dirais que depuis les 5 à 10 ans, il fait vraiment plus chaud. On peut dire que chez une personne normale, ayant un petit salaire ou un petit travail, il est très difficile pour sa famille de faire face à cet environnement, car avec le temps, les prix de l'électricité deviennent de plus en plus élevés et ces prix ont un impact sur chaque produit que vous possédez et que vous ne pouvez plus vous offrir comme du lait, un jus, vous ne pouvez même plus vous permettre un pain ou des œufs. Plus l'inflation est élevée, plus elle affecte réellement toutes les couches de la société. Alors oui, l'inflation est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous avons migré. à cause des changements environnementaux et des politiques gouvernementales également, car il ne se soucie pas vraiment des préoccupations sérieuses concernant le climat, et c'est une menace réelle pour un pays.
Ces extraits démontrent bien comment plusieurs facteurs, à la fois sociaux, politiques et économiques, interagissent avec les facteurs climatiques. Au final, les personnes n'ont majoritairement pas migré en raison des changements climatiques et environnementaux. Certes, comme elles l'ont généralement démontré à travers leurs différents témoignages, elles reconnaissent toutes que le climat et l'environnement avaient des impacts, parfois directs, d'autres fois indirects, sur leur quotidien et leurs conditions de vie. Tout en soulignant les facteurs de protection qui leur permettaient de naviguer ces défis, les témoignages des participants et participantes démontrent aussi comment les enjeux climatiques et environnementaux augmentaient les facteurs de risque, les disposant à devoir trouver refuge ailleurs, notamment en entravant leur capacité de jouir de certains droits fondamentaux. Les participants et participantes démontrent bien, à travers leurs récits, comment nous vivons tous et toutes en contexte de changements climatiques et environnementaux, s'infiltrant parfois sournoisement dans notre quotidien. Les personnes vivant la migration forcée n'y font pas exception. Même si elles doivent quitter leur pays pour d'autres raisons, elles sont néanmoins affectées par ce contexte qui amplifie ou complexifie leur migration. Dans ce contexte, que nous vivons tous et toutes à des degrés somme toute très différents, ramener les facteurs climatiques et environnementaux au cœur des discours migratoires, qu'importe le statut migratoire des personnes, s'avère donc essentiel. Nous laissons les mots de la fin à Ernestine, qui l'exprime si bien en parlant de la République démocratique du Congo.
Mais vous allez sentir que les gens fuient beaucoup plus les enjeux climatiques. Ah ouais. Oui, la guerre, mais c'est lié aux enjeux climatiques. Ça a augmenté. C'était vraiment, je peux dire, à 50%, 60% des dossiers là, des réfugiés. Vous allez voir, même s'ils se disent que non, ils ont fui des rebelles, mais vous allez voir que non, les rebelles, là, ils ont été envoyés pour des gens parce qu'ils s'accusent de ce genre d'histoire-là, parce qu'il a jeté un mauvais sort à ça. Or, ce sont des enjeux climatiques. Mais pour eux, ils ne comprennent pas.
La capacité d'adaptation des personnes face aux adversités, qu'elles soient humaines ou environnementales, est flagrante dans les témoignages que nous venons d'entendre. Plusieurs personnes nous ont confié qu'elles ont tenté de rester dans leur pays, et c'est probablement ce que fait la majorité de la population. En effet, les changements climatiques et environnementaux peuvent aussi contraindre la migration en restreignant l'accès aux ressources nécessaires pour migrer. De plus, certaines personnes parviennent à s'adapter aux changements dans leur environnement, ce qui leur permet d'y rester. Toutefois, la migration est également une stratégie d'adaptation parmi d'autres, et les personnes amènent leur résilience dans leur bagage lorsqu'elles arrivent au Québec. Dans le prochain épisode, préparez-vous à voyager plus près de chez nous, dans le froid hivernal et les canicules d'été du Québec. À travers leurs récits migratoires, les personnes participantes nous éclaireront sur les défis et les espoirs vécus alors qu'ils changent parfois drastiquement de climat et s'adaptent aux nouvelles réalités environnementales de leur terre d'accueil. Merci à toutes les personnes qui nous partagent généreusement leur vécu et leurs réflexions dans ce balado. Merci à Virage Sonore pour la musique et le montage de cette série. Merci aussi à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, nous vous invitons à vous abonner au balado sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Le balado Précipitation fait partie d'un dossier spécial mené par le Centre d'expertise sur le bien-être et l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.cerda.info. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager autour de vous. À bientôt.